Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit dans l'after en direct, comme tous les soirs, bien sûr. L'after en direct sur RMC à la radio, l'after en direct sur RMC Sport News, à la télé, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec l'équipe type, l'équipe de la semaine. Jérôme Rantaine est là. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Le PSG qui donc gagne à Monaco 4-1, on vient de suivre le match. Rennes qui gagne à Nîmes 1-0 tout à l'heure. Amiens-Reims 1 partout, 3 matchs de Ligue 1 aujourd'hui, bien sûr, que vous avez suivi sur RMC. On va parler de ces matchs en longueur au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio évidemment, on va les analyser avec vous. Et on va également parler de l'OM avec la conférence de presse du jour évidemment, et les déclats explosifs de Villas-Boas. Florent Germain était à la conférence de presse. Après, c'est même lui qui a posé les questions, en tout cas les très bonnes questions.
Explosive.
Il dit quand même qu'il menace de se barrer.
Ok, ouais, d'accord.
Quand tu as la situation actuelle de Marseille où tu es deuxième, tout va bien, que le coach arrive en disant écoutez, il y a problème.
Il menace, Gilbert.
Tu t'appelles pas ça explosif, t'appelles ça comment?
Il va se barrer.
C'est assez fort. Ouais, ok, d'accord. Très bien.
Bon, en tout cas, Florent Germain sera avec nous tout à l'heure. Évidemment, supporter marseillais, on vous attend nombreux pour débattre de la situation, parce que ça fait énormément réagir à Marseille cet après-midi, cet après-midi et ce soir. Donc, c'est déclaration de Villas-Boas. Mais bon, un bon after démarre toujours avec quoi? Avec les 3 points. Et c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi veux-tu débattre? 3 points.
Rapidement, la maîtrise beaucoup plus grande du PSG ce soir, et le point 2 sera, enfin on essaiera en tout cas de savoir pourquoi ça a mieux marché ce soir, quels ont été les joueurs meilleurs et pourquoi l'animation a mieux fonctionné. Et le point 3, je sais pas si on aura le temps du coup, puisque on va parler de l'OM, mais le Rennes a fait quand même un super coup au classement en fin d'après-midi. Certes, il y a eu 2 matchs un petit peu ternes, le Amiens-Reims et le Nîmes-Rennes, mais Rennes ressort de cette journée en retard bien calé sur le podium quand même, c'est à signaler.
Jérôme.
Premier point sur Paris, bien sûr, Daniel parlait de maîtrise, je pense que Paris a remis les compteurs à zéro sur ce match-là. Ils ont été ballottés, parfois malmenés dimanche soir. Là, il n'y a pas eu photo. Mon point 2, c'est sur Monaco. Ce que je doutais un petit peu par rapport à leur très bonne prestation de dimanche, et on a été les premiers à le dire, l'euphorie, elle a pas duré longtemps. Et mon troisième point, c'est sur le Nîmes-Rennes aussi. Alors déjà, la victoire importante de Rennes, mais il y a la victoire importante de Rennes qui les place bien sur le podium là, et surtout l'inquiétude encore du côté nîmois, parce que j'ai vu une équipe de Ligue 2 tout simplement jouer. C'est une équipe qui est amorphe.
C'est vrai qu'ils sont pas bien.
Ils ont pas de bons joueurs vraiment, ou très peu.
Ils y vont direct.
Et ils y vont, ouais. Je me disais leur dernière victoire là ce week-end peut-être les relancer, et en fait non, pas du tout. Là, j'y crois pas du tout.
Quelle victoire?
Ils ont gagné là le dernier match à domicile 2-0 contre sortez-moi là, le week-end dernier en championnat là.
Contre Brest?
Contre Brest, 2-0.
Ouais, mais non, Brest, ils ont gagné à Toulouse.
Non, c'était pas Brest.
Tu me dis des conneries.
Attends, je vérifie. Mais tu sais que moi, j'ai un problème avec ça. C'est que autant je me souviens du match d'il y a 20 ans, autant le match d'il y a 3 jours.
Tout le monde voyait l'équipe gagner.
Ils ont gagné 2-0 contre Reims.
Reims.
Voilà. Ce week-end.
Voilà.
Exactement. Bon, moi j'ai mis Paris trop fort. En fait, moi j'ai un problème avec ce genre de match. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est tellement. Une fois que c'est plié là, vous arrivez à vous passionner? Très franchement, vous y arrivez encore?
Là, c'est un peu.
Je vous pose la question un peu en préambule, quoi. Mais...
Là, ça suivait quand même un match de dimanche.
Ouais.
Oui, donc tu te dis, waouh, ça va être super!
Non, mais ça entre dans le cadre là maintenant des matchs qui vont préparer le grand rendez-vous. Dimanche.
Mon troisième point, c'était faut garder Villas-Boas. Ça.
Dans toutes les questions qu'on se pose, dans toutes les questions qu'on se pose autour de la compo et de cette équipe type qui tarde à se dessiner, et je trouve que c'est un problème qu'on n'y voit pas plus clair sur le milieu de terrain. Chaque match va être un élément de plus. J'avais très envie de voir de quelle façon le PSG allait aborder la rencontre et si tu pouvais pronostiquer une victoire du PSG, vexé dimanche, voulant se venger. Comment ils allaient faire pour l'obtenir ? Est-ce que ça passait par des joueurs différents, une animation différente, une implication différente ? Parce que pour moi, la seule clé, elle est là. Tu ne joueras avec les quatre de devant, et je pense que de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière maintenant. C'est comme ça qu'ils vont y aller. Mais ça sous-entend une implication de ces hommes sans faille. Le reste, ça ne sera... Mais de toute façon, quand on parlait l'année dernière de Liverpool, quand on parle des équipes qui ont gagné des grosses compétitions ces derniers temps, il y a toujours le secteur, on va dire, un petit peu vedette, mais derrière, il faut qu'il y ait une équipe au service. Il faut qu'il y ait une équipe de serviteurs.
Non, mais et c'est là, pas ça que je voulais dire. Moi, je pensais que tu allais réagir sur le scénario
le match,
global.
Moi, je le trouvais très intéressant malgré tout, le match. Même quand ils l'ont plié, j'avais envie. Moi, j'ai beaucoup regardé le milieu, parce qu'on a, parlé des latéraux dimanche.
Yeah, mais comme quoi, ça a été corrigé, du moins, il m'a écouté. Ah si.
Non.
Daniel, t'as pas bien regardé le match. Alors dans ces cas-là, quand ils attaquent le Paris Saint-Germain, quand ils ont le ballon, t'en avais que un sur les deux qui montait, qui était très haut.
Alors ok. Alors je comprends ce que tu veux dire. Et alors essayons d'être
mais
précis.
Mais ça c'est important.
Donc, mais ça va pas être une affaire. En l'occurrence, je prends les latéraux, donc c'est pas une affaire d'homme, parce que ce soir t'as les deux plus mauvais.
Non, mais c'est une affaire de...
Kurzawa, il a pris court dans le premier quart d'heure. Les deux occasions que Monaco a, il prend court en derrière, il comprend rien.
Mais quand tu parles de tactique ou d'animation, c'est pas une question.
Non, là, je te suis.
C'est une question de système, ce que Thomas Tuchel... En fait, dans ce qu'il a demandé, Thomas Tuchel, aujourd'hui, c'est de l'apport des latéraux, parce que c'est utile dans le foot moderne, et encore plus quand le Paris Saint-Germain a le ballon. Par contre, il faut alterner. Il faut pas prendre moins de risques, qu'il y en ait au moins un des deux qui viennent aider les deux derrière.
Il faut être mieux organisé.
Ce qu'ils ont fait. Et puis après, dans le milieu de terrain, où on
parce
peut noter...
Parce que l'équipe, elle est moins forte ce soir sur le papier. Les latéraux, c'est les deux moins forts.
Ouais, mais c'est
le milieu. Mais... Tu fais jouer un tout jeune. A priori, t'es moins fort.
Oui, mais je pense pas que ça soit des problèmes individuels sur le.
Et tu fais pas jouer ta grande star vedette du milieu de terrain.
Mais on est d'accord.
Donc normalement, t'es moins fort. Et à l'arrivée, t'es plus fort.
Mais sur le match de dimanche, on n'a pas dit que c'était des problèmes individuels, du moins de valeur de joueur. C'était un problème de placement, d'anticipation. Où Bernat et Meunier, moi je les citais, ils étaient bien trop hauts et eux, ils se sont jamais adaptés à une situation compliquée.
Ils étaient moins disciplinés.
Moins disciplinés. Ouais, mais non. À mon avis, ça vient aussi de l'entraîneur qui leur a demandé ça, parce que systématiquement quand ils jouent comme des ailiers les deux en même temps, c'est l'entraîneur qui te le demande. Ils le font pas naturellement. Un latéral gauche ou droit alterne en général comme ils ont fait aujourd'hui. Après,
il y a pas que ça. Il y a aussi que le milieu de terrain, Kouassi, il est plus défensif.
Et encore, aussi, c'est le moins bon d'aujourd'hui.
Et c'est le moins bon.
C'est le moins bon. C'est lui qui perd les ballons.
Ouais, c'est vrai. C'est indéniable. Mais il n'empêche qu'au milieu. Alors, il n'y a pas le même apport offensif que Verratti, il n'y a pas la même technique, hein, mais le mec, il était là, il courait, il compensait,
mais
il se dépensait.
Mais est-ce que tu peux vraiment comparer?
Et finalement, c'est ça qu'il va falloir.
Mais est-ce que tu veux, moi, là-dessus, je te rejoins pas, c'est que, c'est pas parce que c'est Kouassi qui est plus solide, en effet, qu'un Verratti
je te dis
ou
milieu,
qu'un
si
autre.
Si t'as pas ça, t'y arriveras pas.
Mais non, parce que aujourd'hui, bon, c'est
soir,
Monaco
moi,
qui est.
La preuve, c'est ça.
Monaco est moins fringant. Quand ils ont le ballon,
ils
perdent un tas.
Parce que Paris joue beaucoup mieux aussi.
Mais en quoi il joue beaucoup mieux?
Paris joue beaucoup mieux ce soir. Le match que fait Di Maria ce soir, c'est deux fois, quatre fois supérieur à dimanche.
Exactement. Mais c'est pas une question d'implication, de concentration, parce que je pense qu'il l'était dimanche soir. C'est une question de jus. Aujourd'hui, il avait du peps. Il était partout en première mi-temps. Je l'ai vu courir à droite, à gauche, à l'étacle et aller récupérer des ballons. Jouer presque comme un troisième milieu de terrain quand ils avaient pas le ballon. Même Neymar le faisait, mais Neymar l'avait fait dimanche soir déjà. Donc, en fait, c'est même pas un problème d'homme. Parce que tu joues avec Kouassi et encore.
Pourquoi il a pas démarré le match, Verratti?
Parce que Verratti, il peut pas enchaîner.
Ah, il peut pas enchaîner. Donc, c'est qu'il a un problème physique.
Ah ben attends, mais moi
donc là... ça veut dire que pour les gros matchs,
non,
c'est pas dit qu'il a un problème physique, ça peut être un choix de Tourelle.
Ouais, donc les 4 de devant eux tournent pas, mais lui il tourne
parce qu'il a moins de caisse que les autres.
Ouais, bah, c'est ce que je veux entendre moi.
Donc
ça veut dire avant Dortmund, il faut le mettre au congélo pendant 2 semaines.
Non, mais je pense qu'il le gère bien.
Je dis que c'est juste qu'il peut pas faire ce match là. Il peut pas faire ce match là.
Bah si, parce que
il a pas la caisse, il a pas le coffre, il a pas le physique pour faire ça.
Mais parce que non, je te rejoins pas, c'est que dimanche dans un match qui était une grande intensité, ça a été le meilleur au milieu de terrain. Eh. Ah oui, une bonne partie du match, dimanche soir, je suis désolé, ça a été le meilleur. Il a gratté des ballons.
Une bonne partie de combien de temps? De 30 minutes?
Non, mais non. Daniel, après, toi, tu penses qu'il a une autonomie de 60 minutes dans un match. Moi, je suis persuadé qu'avec l'adrénaline, avec la concentration et tout ça...
À chaque fois, il s'est toujours cramé.
Il s'est toujours cramé,
cause de l'adrénaline, il s'est cramé.
Pour moi...
Dans tous les matchs, il ne finit pas.
Non, mais...
Même ceux où il est bon, il ne finit pas.
Toi, tu penses ça.
La deuxième mi-temps dimanche, on a l'impression qu'il était...
Il volait.
D'ailleurs, Alain Roche l'a dit dans un très bon article, je ne sais plus où je l'ai lu aujourd'hui, je crois que ça devait être dans l'équipe. Il l'a dit. Il dit en deuxième mi-temps, il passait au travers. Tous ces pressings, c'était des courants d'air. C'était même plus de tourniquet, c'était courant d'air.
Je suis d'accord avec toi, mais le problème, on va pas refaire le match de dimanche, mais c'était pas Verratti au milieu de terrain.
Je refais le match de dimanche parce que ce soir,
je pense qu'aujourd'hui,
avec des mecs moins habiles techniquement, ça a tenu plus.
Là, on est en train de faire 5 minutes sur un mec qui a pas joué.
Et donc pour finir, oui, il y a eu un réajustement tactique parce que Thomas Tuchel, il a analysé le match de dimanche, il a vu ce qui avait pas été. Moi, je mettrais un petit bémol, c'est parce que la performance des Monégasques est aussi moins bonne. Ils ont moins de jus. Quand ils attaquent, Ben Yedder fait moins de différence. Les milieux de terrain, Fabregas, Golovin, on les a moins vus, surtout Golovin. Les mecs de côté, Baldé, il a mis une demi-heure à toucher son premier ballon. C'est pareil. Alors qu'au parc, ils avaient peut-être plus d'espace.
Et la présence de Kimpembe
derrière. T'as aimé?
Ouais,
mais moi aussi, je trouve qu'il a été très bon.
Kimpembe, et pourtant... C'est un mec qui est susceptible de faire de la boulette, dans le sens où parfois il a une sorte de dilettantisme quand il va au contact en touchant un peu le ballon. Mais tout compte fait, c'est un gars qui apporte une densité physique dans une équipe qui veut jouer offensif de façon offensive et avec 4 mecs comme ça devant qui par moment peuvent lâcher les marquages. Je pense que cette équipe du PSG... C'est un truc qu'on a peu dit sur les années où elle a échoué en Ligue des Champions, mais pour moi, elle manquait également de densité physique. Et quand je dis densité physique, c'était caractère et densité. Caractère, ça c'est le premier point, on l'a dit, on va pas redire mille fois.
C'est pour ça.
Mais on s'est peu attardé sur la densité physique. Et
allez,
tu regardes les grosses équipes, elles ont des mecs qui... Le foot aujourd'hui a une dimension, évidemment que la technique, tu le sais bien, pour moi c'est en 1, mais le côté athlétique, si tu prends certaines équipes, les mecs c'est des monstres. C'est des monstres.
Ahmed, bonsoir.
Et au PSG, il y a beaucoup de petits au milieu, même derrière, il n'y a pas du gros gabarit. Alors, et ça va compter.
Tu veux revenir sur les choix de Tourelle? On t'écoute, Ahmed.
Moi, j'ai trouvé que Tourelle a été intelligent. Il a fait tourner, il a mis de la jeunesse. Et face à un Monaco qui, lui, a aligné quasiment la même équipe, je ne comprends pas qu'il n'ait pas fait jouer Slimani. Ils étaient cramés. Donc, ça a quand même bien joué pour nous d'avoir plus de fraîcheur sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez cette impression. J'ai l'impression qu'il a mis Di Maria un peu derrière les trois attaquants. Je l'ai trouvé un peu plus axial dans son jeu. Et j'ai bien aimé les latéraux, parce qu'ils ne sont pas tous montés en même temps. Ils ont été intelligents dans leur jeu. Ce qui fait qu'on n'était pas débordés comme au match aller, où ils se retrouvaient à 2-3. Là, ils ont été intelligents de ne pas monter en même temps. Je suis d'accord avec Daniel, avec Jérôme là-dessus. Et je suis d'accord avec Daniel, il a remis du physique, il a mis du combat. Et le petit Kouassi, il a mis du muscle. Même Gueye, que j'ai un peu critiqué sur dimanche, je trouve que Gueye a été plus physique. Ils ont fait des fautes, les mecs, ils ont été au combat. Et ça a empêché Monaco d'imposer son jeu, de remonter trop facilement le ballon, de nous percer trop facilement. Et ça a permis de... Face à Monaco un peu fatigué, ils ont explosé. Ils n'ont pas pu tenir. Donc je trouve que le coaching de Tourelle est intéressant. Moi, Verratti, je pense qu'il n'a pas le coffre. Il n'est pas assez physique. Et même un jeune comme Kouassi, dans le combat, il apporte plus... Il y a assez de technique devant. On n'a pas besoin d'un joueur qui garde la balle.
Mais tu as quand même besoin, où là, je suis... après, ça veut pas dire Kwasi est pas capable de faire des bonnes passes, hein. C'est pas ce que je dis. Ce soir, ça a pas été le cas. Il en a perdu beaucoup. Peut-être, l'appréhension aussi du haut niveau d'un match comme à Monaco où il apprend. Donc, on va pas lui tomber dessus. Il a pas fait un grand match. Après, dans le combat physique, oui, mais dans n'importe quel match de très haut niveau, dans tous les cas, t'as besoin aussi de faire le bon contrôle, la bonne couverture de balle et la bonne passe vers l'avant quand t'es un milieu de terrain. C'est-à-dire, si t'as du mal à te retourner et que t'attends que des ballons face au jeu, tu peux pas jouer au milieu, c'est pas possible. Ce qui est souvent le problème de Marquinhos au milieu de terrain, qui va être le problème de Kwasi aussi sur un gros pressing. Verratti là-dessus, Kwasi, il peut déjouer n'importe quel pressing.
Kwasi, je t'en fais pas un titulaire, mais je reste convaincu. Je reprends. En fait, c'est simple, hein. Il faut regarder les équipes qui gagnent, qui ont gagné ces derniers temps. Au milieu de terrain et derrière, si t'as pas de la densité physique, évidemment, il faut que ce soit accompagné de mecs qui savent tous jouer au ballon. Mais si on regarde les mecs de Liverpool, Van Dijk, il a joué avec à côté de lui Matip ou Lovren.
Ouais, mais
et les mecs du milieu, je peux t'assurer que pendant longtemps, on s'est foutu de leur gueule disant qu'est-ce que c'est limité, Anderson, Milner, et aujourd'hui les mecs t'apparaissent comme des brutasques qui écrasent
tout le monde. Je suis d'accord avec toi, mais
Casemiro, c'est un monstre. En plus, c'est mieux.
Tu peux
Varane,
pas...
Ramos, c'est en plus d'être technique, sont des monstres.
Tu peux pas être catégorique dans ce truc. Le foot qui gagne, c'est ça. Ça serait, c'est trop facile. Le foot.
Regarde même l'analyse.
Attention.
Ce sont ta quatre mecs qui sont hyper talentueux devant.
Je te dis pas que t'as tort sur ce que tu dis. Maintenant, tu peux pas être aussi catégorique. Il y a des équipes qui amènent autre chose.
Gaël a été meilleur ce soir qu'il a été dimanche.
Je vais te dire, Liverpool.
Gaël a fait une très bonne première demi-heure.
Gaël a été meilleur ce soir parce qu'à côté de lui, il y avait un bastonneur.
Liverpool, magnifique cette année championnat. L'année dernière, ils sont pas champions. Il y a deux ans, ils sont pas champions. Et c'est City qui joue d'une autre façon, avec d'autres milieux de terrain. Donc, je suis désolé, il y a l'exception qui confirme la règle.
City, sur la longueur d'un championnat, avec leur jeu et leur science, ils vont gagner. Ils vont gagner.
Mais pourquoi ils pourraient pas gagner la Champions League?
En Coupe d'Europe, ils n'y arrivent pas.
Tu sais pourquoi ils n'y arrivent pas.
Le fait d'avoir perdu Fernandinho au milieu, et comme ils n'ont pas de défenseur, c'est comme ça qu'ils sont en train de se faire fourrer par Liverpool.
Tu sais aussi que.
Parce qu'il leur manque ça.
Il y avait au départ, et je ne veux pas que parler de City, parce que je ne veux pas enfermé que sur City, c'est l'exception qui confirme la règle, avec ce que tu viens de dire, avec l'impact et tout, et pourtant c'est une équipe qui gagne.
Et regarde, donc, même Tottenham l'année dernière, comment ils vont en finale.
Non, mais d'accord, oui, ils vont en finale avec le chat Didier Deschamps.
Beaucoup de réussite.
Mais
n'empêche que dans le combat jusqu'au bout pour aller arracher les matchs, ils avaient des mecs qui étaient putain des brutasses physiques.
De toute façon,
et évidemment, beaucoup de talent au
foot,
poste où il faut.
Le foot aujourd'hui est.
Le foot, il a vachement changé.
Et j'ai vécu l'évolution, et encore plus aujourd'hui, où tu as besoin aussi d'avoir une grosse caisse, de beaucoup courir, d'aller dans le combat et tout ça. Après, moi, le foot d'avant et le foot d'aujourd'hui reste le même quand tu as le ballon dans les pieds. C'est-à-dire.
Je préférerais toujours la passe de De Bruyne. Les trois de devant à Liverpool, il n'y a aucun problème.
De Bruyne,
on est d'accord.
De Bruyne, tu le mets contre Liverpool, sur un match de Coupe d'Europe, de Champions League, pas de championnat, comme tu viens de dire, je suis pas certain que De Bruyne il passe à côté de son match.
Les gars, s'il vous plaît,
capable de faire déjouer le pressing de Fabinho, de Milner, de Henderson.
Non, mais moi, je te parle de l'assemblage.
L'assemblage doit être
pratiquement un 60-40 presque aujourd'hui. Mais je te dis pas que je milite pour ça, parce que moi.
Donc toi, en fait, toi c'est pas juste pour finir.
C'est pas l'idée
Daniel,
que je défends, hein.
S'il te plaît.
Juste pour finir, donc en gros, toi, tu penses que Gay Verratti, c'est pas possible.
Non. Mais c'est plus simple, c'est que j'en veux même pas.
D'accord.
Décryptons.
Verratti qui fout même qui tu veux. Je veux que ça découpe au milieu.
La première déclat d'Mbappé qui est, je sais pas, assez étonnante. Il dit, avec tout ce qui s'est passé dans l'après-match, donc en l'occurrence il parle de dimanche soir, je vois pas trop à quoi il fait référence en fait. Il dit, après tout ce qui s'est passé dans l'après-match, on voulait montrer qu'on est vraiment une bonne équipe.
Qui a dit ça?
Mbappé.
À chaque fois qu'il y a la moitié d'une critique, visiblement, il en souffre.
Peut-être qu'il écoutait l'after en rentrant à la maison, je sais pas, comme Jérôme à l'époque. Il dit, avoir des matchs de cette intensité, ça nous fait du bien, on est content. Je pense qu'on parle un peu trop des 4 de devant, dit Mbappé. On joue à 4 dans une équipe de 5, mais là, on est 11, dit-il. Et puis, il dit, par ailleurs, j'ai été, découvert ici à Monaco. Il y a eu quelques insultes, il fallait répondre. Donc, il a dû se faire un peu malmener, sans doute.
Après sur les
dimanche soir, j'ai pas l'impression non plus.
Ça c'est de la gnognotte, on va pas revenir dessus. Mais il a raison dans le fait qu'on dise les quatre de devant. Les quatre de devant maintenant
Okay. C'est les vedettes.
Ils ont été moins.
On en parle. Non, mais de toute façon, parler, c'est les vedettes, c'est eux.
Et puis ils sont dans, ils sont dans le vrai depuis un bout de temps. Ah oui, donc maintenant, oui. Même le match de Monaco,
ils sont moins bien en ce moment.
Non, mais ils sont moins bien. Oui, ben, il y en a. Hein. Di Maria était moins bien. Mbappé était moins bien dimanche soir.
Et là, ce soir, ils ont été.
Ce soir, les trois sont bons. Icardi, c'est vrai, enchaîne deux mauvaises prestations. Ce qui est encore étonnant. Du moins, non. J'allais dire que Cavani rentre pas, mais il était pas là, donc je vais pas lui tomber dessus à Thomas Tuchel. Mais c'est vrai que Icardi est moins bien. Alors est-ce qu'il a le contre-coup physique aussi, parce que c'est un joueur qui a quand même pas beaucoup joué l'année dernière.
Écoute, c'est possible. Ah ben, un truc aussi, à rajouter.
Hein. Je voulais juste rajouter Laurent Blanc. Il faisait toujours jouer Thiago Silva avec Alex, un mec dans l'anticipation et un mec pour le combat. Mmh. Et je trouve que il a mis Thiago Silva, il a mis Kimpembe. Il faut garder cet esprit-là. Voilà.
Mais tu veux que j'aille plus loin, Ahmed ? Je vais te dire, je vais faire bondir les gens. À choisir Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, je mets Thiago Silva, Kimpembe.
Ça veut dire que Marquinhos, tu le fais pas jouer.
Soit au milieu, soit je le fais pas.
Mais t'en veux pas au milieu. Et ben, si t'en veux pas au milieu et que t'en veux pas là.
Ouais, non, mais attendez, les amis.
Ou tu le mets latéral.
Excusez-moi. Une bonne fois pour toutes. Le PSG, ça fait maintenant 7 ans qu'ils enchaînent les déceptions en Ligue des Champions. Mmh. Avec des joueurs dans cette équipe.
Ouais.
Qui, au bout d'un moment, vont quand même devoir passer à la compta pour faire un bilan. Mmh. Il y a personne.
Alors pourquoi tu laisses Thiago Silva ?
Personne peut être protégé. L'un des deux. Choisis qui tu veux des deux.
Parce que psychologiquement, Daniel, si tu vas là-dessus,
pas de problème.
Qui a le plus souffert psychologiquement ? Il l'a montré sur plein de rendez-vous.
Tu peux choisir celui que tu veux, ok ?
Ah ben non, mais moi, Marquinhos, il a pas souffert.
Mais je t'associe plus les deux. Terminé. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a des mecs qui sont dans cette équipe depuis longtemps, qui sont soi-disant protégés, l'ancienneté, on les chouchoute. Hein, mais est-ce que c'est obligatoire qu'ils soient tout le temps bons et est-ce qu'on peut pas les toucher ? Ben moi, je suis désolé. En ce moment, je réfléchis, je regarde les autres équipes, machin, je me dis, est-ce que le PSG, maintenant qui a opté pour ce schéma-là, et j'encourage Tuchel à continuer parce que quand t'as quatre joueurs de cette qualité-là, eh ben vas-y, parce que Di Maria, je veux pas le sortir. Neymar, que j'ai beaucoup critiqué, s'il joue comme ça. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Vous êtes fantastique. Là, vous me montrez ce que vous êtes. Pas de problème. Évidemment que tu joues. Les yeux fermés,
tu joues. Mais tu peux pas t'enfermer dans ce système-là. Si jamais, je te dis, alors je le souhaite pas, mais si Icardi enchaîne des mauvaises prestations comme ça, tu peux pas.
Si tu gardes Cavani, tu mets Cavani.
Tu peux pas. Non, mais même, tu peux pas.
On va passer à Monaco, les gars, parce que le temps passe.
Parce que après, il y a aussi, tu gagnes pas une Ligue des Champions en se disant, bon, bah, écoute, les quatre devant et derrière, on va mettre, je pense que c'est une dynamique de groupe. C'est aussi entraîneur qui amène ses idées et qui arrive à faire des choix tactiques qui se révèlent payants. Donc ça veut dire que les quatre de devant, tu peux les faire jouer au Paris. Tu peux aussi dire à l'extérieur, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a des belles équipes en Ligue des Champions, il y a pas que le Paris Saint-Germain, et dire bah écoute, Icardi t'es moins bien, bah je te sors, je vais te laisser les trois devant, Di Maria, Neymar, et Mbappé, et je vais renforcer mon milieu de terrain et tu vas rejouer à trois comme lui il aime bien.
Et
c'est possible ça.
Les gars, s'il vous plaît.
Non, j'ai un dernier mot parce que je vais aller plus loin dans mon idée. J'ai commencé à l'aborder ces derniers jours, certains l'auront entendu, mais c'est pareil à gauche. Hein. Je renforce aussi. Je mets Diallo. Sauf s'il est blessé. S'il est en pleine forme, j'y vais.
Putain, mais il a dormi où, lui? T'as mangé quoi, toi, en fait?
Top. Les gars, deux faits de jeu quand même. Il faut qu'on y revienne.
J'ai regardé des trucs.
Il faut qu'on y revienne.
Didier Deschamps, je lui fais écouter ce qu'il est en train
de... Le premier but de Mbappé.
Avant que ça joue comme Didier Deschamps, il y a encore de la marge.
Le premier but de Mbappé, intervention du VAR. Alors, on n'a pas revu d'animation à l'écran. Bon. En tout cas, les arbitres du camion, du VAR Center, c'est celui dans un camion, ont mis 3 minutes 24 secondes pour valider le but de Mbappé.
Je comprends pas pourquoi ça a
alors ça.
Je comprends pas.
Moi, je pense qu'en fait, ils n'ont jamais eu la bonne image. Et là, Canal Plus vient de montrer un montage où, pour eux, il y avait clairement hors-jeu avec le genou de Mbappé.
On le voit. Hein,
Donc, c'est quoi?
Après, ils viennent de montrer un truc, et une nouvelle fois, c'est sujet à caution.
Nouvelle boulette du VAR.
Bah, on ne saura jamais. Ils ne nous diront jamais.
Et le péno, il faut combien
pour moi, il
n'y a pas péno.
D'ailleurs, l'arbitre, le Texier, se fait bien allumer un peu de partout.
Où il y a péno?
Je pense qu'il a un peu raté son match, le Texier.
Ah, mais le Texier était à
Le Texier ne rate pas son match, puisqu'il est assisté par des mecs dans le bus. C'est donc l'équipe arbitrale avec le
fantastique VAR. Oui, tu as raison. L'équipe arbitrale rate son match.
C'est ça, exactement. Parce que le Texier, il est malheureusement pas responsable là-dessus.
Mais
si le pénalty, lui, à vitesse réelle, il le voit.
Mais oui, si avec oui, il y a péno.
Non, mais il n'y a jamais péno.
Je comprends pas. Non, mais bon, il y a l'image du penalty, le hors-jeu. Je pense que l'équipe.
En plus, il prend jaune, Glick.
L'équipe d'arbitre aujourd'hui était totalement à la rue. De toute façon, quand Varela est quatrième arbitre, ou pas loin du terrain, il se passe quelque chose de pas bien. Donc, voilà, bah, encore une fois, ça a confirmé.
Dans un instant, on parle de Monaco et de Moreno, qui s'est peut-être trompé ce soir en remettant la même équipe. On va avoir Alexandre avec nous. Et puis un mot sur Rennes avant de parler de Marseille, bien sûr, en longueur. Et donc de cette conférence de presse aujourd'hui, qui est importante de Villas-Boas. C'est tout de suite dans l'after, évidemment. On est là jusqu'à minuit avec vous.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotel et Daniel Riolo, bien sûr. La Ligue 1, ce soir au programme. Monaco. Alexandre est avec nous au 32-16, supporter de la SM. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Alexandre.
Alexandre, est-ce que Moreno s'est planté en mettant la même équipe ?
Compliqué de dire qu'il s'est trompé. Je pense que oui, mais après, je trouve que vous avez fait quand même pas mal de conclusions sur le match de ce soir, notamment au niveau du Paris Saint-Germain. Ne vous méprenez pas, ce soir, il n'y a pas eu de match ce soir. Enfin, il n'y a rien à en tirer. Les joueurs de Monaco étaient totalement cramés. Ça s'est vu directement. Il n'y avait pas d'intensité. Il n'y avait pas de repli défensif, Keita Baldé était cramé, Fabregas pareil, Golovin était invisible. C'est dur, hein. C'est dur de jouer deux fois contre PSG.
En 3-4 jours, c'est
compliqué. Hein.
C'est compliqué, surtout quand tu n'as rien glandé depuis 6 mois, ça c'est sûr, je te confirme, oui, c'est très compliqué.
Voilà, donc déjà il y a l'enchaînement, Alexandre. Ensuite, n'oublie pas, la première grosse occasion, elle est pour Monaco.
Ah, ben,
si jamais ça fait but sur le courant d'air contre Franck Kurzawa.
D'ailleurs, sa tête, c'est bizarre, il la met plus sur.
Je ne dis pas que ça change la face du match, mais démarrer à 1-0, déjà, ça donne un petit peu autre chose.
C'est sûr, on a d'autres occasions aussi, mais ça n'aurait rien changé.
Après, n'oublie pas que le PSG, je le répète, a été plus fort dans l'impact physique, avec notamment un Di Maria qui a beaucoup plus couru, qui est beaucoup plus redescendu au milieu. Même Neymar, qui avait pourtant pas été mauvais dans ce secteur-là dimanche, a encore été bon ce soir dans ce secteur-là. Mbappé a été plus présent. Donc il faut aussi que tu vois que les Parisiens ont été meilleurs par rapport au match où vous avez fait 3-3 en faisant un très bon match. S'il y a juste un truc, je sais pas ce que tu en penses de ce point-là. Moi je crois que Moreno peut changer quelque chose et que quelque chose a déjà changé. En revanche, et c'est malheureux, mais je crois pas qu'il puisse s'obstiner avec Fabregas.
Ah bah non, Fabregas de toute façon,
ça c'est un
signe,
parce que j'ai bien senti qu'il avait envie de le relancer, parce que le lien espagnol, j'ai besoin de toi au milieu parce que tu peux aider machin. Mais Fabregas, je crois pas qu'il ait plus d'un quart d'heure dans les jambes.
Oui, aujourd'hui, c'est
même dimanche il a eu trois quarts d'heure.
Non mais après
là aujourd'hui, il était nulle part, il se faisait manger à chaque fois.
Moi, Daniel, je suis pas surpris de la prestation des Monégasques aujourd'hui. Déjà, j'ai été agréablement surpris, et on l'a dit assez dimanche soir, ils ont fait un match de très haut niveau, très concentré, à l'image de leur entraîneur, ce qu'il a demandé, il a trouvé les bons mots. Physiquement, les mecs se sont bougés, ils avaient pas envie de me prendre une rincée un dimanche soir à 21h sur Canal. Donc ils se sont accrochés, ils ont fait un grand match. Très bien. Tu savais très bien que 3 jours après, en plus, tu retrouves le Paris Saint-Germain, qui lui est habitué à enchaîner comme ça les matchs tous les 3-4 jours. Donc exactement, forcément, physiquement, tu n'allais pas sentir de méforme. Et en plus, il y a eu des changements du côté parisien et que tu le sentirais côté monégasque. Là, ils sont retombés dans leur travers parce que physiquement, ils sont complètement cramés. Ça ira mieux, je reste persuadé. Et là, je suis comme vous deux à penser que Moreno va amener une touche différente de ce qui se faisait avant. De toute façon, à Monaco, le club, l'histoire du club fait que on a besoin d'avoir des entraîneurs à la tête de ce club qui ont des idées de jeu, des vraies idées de jeu avec des joueurs techniques. Et Fabregas en fait partie. Après, est-ce qu'il est Fabregas psychologiquement, il sera capable de redevenir un joueur de très haut niveau, c'est-à-dire que dans la concentration, dans les efforts aux entraînements, parce que ça passe par là, c'est le travail invisible. Et en fait, ce travail-là, à Monaco, pour la plupart des joueurs qui jouaient aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Donc là, en l'espace de 15 jours, ils ont déjà très bien travaillé avec Moreno, avec le staff. Je pense que le mois de février-mars annonce peut-être un beau printemps pour Monaco. Mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, ils sont incapables d'enchaîner comme ça.
Dites-moi les gars, pour conclure sur Monaco, c'est quoi le souci avec Slimani ? Alors, est-ce qu'il était blessé ou pas? En tout cas, il n'était pas annoncé blessé.
Apparemment, il s'est blessé dimanche soir.
Ah, d'accord. Parce que là, normalement,
c'est ce qu'il disait.
Bon, si c'est ça, alors. Parce que là, on aurait dû le voir titulaire, normalement. Bon.
Non.
S'il n'est pas blessé.
Non, titulaire, non. Parce qu'il ne rentre pas dans le système de.
Renaud, il joue en 4-3-3. À partir du moment où il joue en 4-3-3, c'est
et qu'il a décidé de mettre Ben Yedder devant.
Il jouera Baldé sur un côté et Martins de l'autre côté, c'est mort.
Ça, c'est le grand changement de Moreno. C'est l'animation qui va être différente.
Il ne jouera jamais.
Non, pas en 4-3-3.
Il jouera.
La place de Ben Yedder.
Il jouera que quand Ben Yedder
n'est pas capable de jouer sur un côté.
Non.
C'est pas du tout le profil.
Pas dans ce qu'il demande. Tu joues avec Martins et Keita Baldé sur les côtés. C'est pour animer, pour aller percuter. Il faut des courses. Slimani, c'est pas du tout son jeu.
Parce que début de saison, il est très bon. On l'a pas vu bon comme ça. Il jouait, mais bon, ça se passait pas bien pour Monaco. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il a été bon dans une équipe qui était à la rue. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ce soir, il est blessé. Il faut dire,
la doublette était complémentaire.
Blessé, pas blessé, il va être fâché, oui, parce qu'il sera plus titulaire.
Merci Alexandre.
Et la doublette, on aimait bien.
Salut, merci bonne
Alexandre,
soirée.
Pas comme ça, moi.
Vous vouliez dire un mot de Rennes, les gars, qui gagne donc et qui est troisième. Alors effectivement, au classement, c'est pas mal. Et ils prennent
il y a un petit coussinet sur le fauteuil maintenant.
Exactement.
Le coussinet la moquette est plus épaisse.
Exactement. Ils ont 4 points d'avance là sur Nantes qui est 4e.
Va s'améliorer.
Et 5 points d'avance sur Lille qui est 5e.
Ouais, moi je franchement, bon, alors après je l'ai regardé le match, ça m'intéressait de voir comment Rennes allait saisir l'occasion.
Ils ont 7 points d'avance sur Lyon.
Ils ont 7 points d'avance sur Lyon.
Comment ça faire 7 points hein.
7 points comment ça faire sachant qu'ils vont les recevoir.
Là maintenant deuxième partie de saison.
Non mais là
soit ils s'écroulent. mais sinon
franchement je pense que ça va pas s'écrouler parce que c'est cohérent ce qu'ils font en plus
comment c'est dinguissime le match aujourd'hui.
Ah mais non mais Stéphane arrive à faire tourner et là il s'en sort. Non mais c'est pas dingue, t'as raison, parce que Rennes la première mi-temps ils ont été bien meilleurs en deuxième, mais la première mi-temps des deux côtés c'est dramatique.
Le troisième de notre championnat, tu regardes.
Ah mais non, de toute façon Daniel, on a vu ce qu'ils avaient donné en Europa League.
C'est ça qui va en Ligue des Champions, déjà qu'ils se sont fait tarter en Europa League.
Oui, mais bah bon, après, tout le mérite à Rennes. Si jamais ils finissent troisième, tant mieux pour eux.
L'aventure, elle est super. Tu les félicites, tu dis bravo et tout.
Je pense que ça
sera. Est-ce qu'on ne devrait pas parler plus du dénommé Pipo Unou, comme on l'appelle à Rennes?
Il a bien fait. Écoute, il est beau,
il
son
super.
Il est pas facile à mettre, son but.
Parce qu'on parle souvent de Niang, Grigny quand il joue tout ça.
Quand le ballon est contré, parce que bon.
Oui, mais dans la Ligue 1, ce profil d'attaquant, que moi j'aime bien, ça a très peu sa place.
Puis toi, t'as joué un mauvais tour, dis-moi, parce que franchement, leur filet Martinez, qui joue à Strasbourg. Il joue à Strasbourg.
Nous, on n'aura pas filé Martinez, c'est lui qui a voulu y aller.
Non, mais franchement, Martinez, déjà sur le but, je ne sais pas ce qu'il fait quand il fait sa tête là. Mais derrière, je me retourne et au moment où il frappe, je dis, mais non, il n'a pas le droit, emmène-la, fais un contrôle orienté,
Au final,
il met un super but. Moi, juste en aparté, je te l'ai dit tout à l'heure, je voulais parler de Nîmes. Parce qu'on parle beaucoup de Nîmes et tout ça. Il y a les attitudes. Parce que s'il y a bien un truc qui a sauvé Nîmes sur les derniers mois ou les dernières années pour remonter, pour se maintenir, c'est l'état d'esprit. Quand tu joues chez toi au Costières, c'est compliqué pour n'importe quelle équipe. Tu mets un peu plus d'envie, un peu plus de grinta. Là, il n'y a plus la grinta. Le public, je trouve qu'il est amorphe là-bas. Mmh. Et ce qui me choque encore plus, c'est que tu perds 1-0 contre Rennes. L'entraîneur, du moins je vais dire l'entraîneur, c'est Arpinon. Parce que je parle même pas de l'autre.
Arpinon
est l'adjoint.
Non mais Arpinon, il est grand sourire. Oh mais les gars, aujourd'hui tout est filmé, tout est analysé. Comment vous pouvez donner ce sourire là aux joueurs qui viennent de perdre et qui ont fait une prestation minable à domicile? Ce club, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que pour moi, même si au classement ils sont pas totalement largués, ils y vont tout droit, direct. Il y aura pas de réaction et ils peuvent ramener une ou deux recrues.
Voilà,
en plus,
ça semble bouclé.
Et puis en plus, ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs peut-être, Ripard et Briançon. Sur blessure en même temps. Donc,
quoi qu'attention, Amiens creuse un peu quand même.
Oui, non, mais attends. Écoute, à Amiens, l'entraîneur avait montré.
Qui d'ailleurs a dit ce soir qu'il avait honte de la première mi-temps. C'est honteux.
Oui, mais de toute façon, après, c'est Amiens.
Dans quelques instants, Marseille, les gars, on a déjà Marvin qui nous attend au 32-16. Florent Germain également va vous raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Conférence de presse de Villas-Boas qui a évoqué un éventuel départ. Vous saurez tout dans quelques secondes dans l'after, bien sûr, et on en débat au 32-16.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Bretagne est là et on accueille Florent Germain en direct de Marseille, bien sûr. Salut Florent.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Flo.
Attention, conférence.
Ça faisait 2-3 jours que t'étais tranquille, toi. Bien fait pour toi.
Ça faisait quelques semaines qu'on était même.
En même temps, c'est lui qui a posé tranquille. Les questions qui fait qu'il est plus tranquille. Donc,
c'est le talent, c'est de poser la question qu'il faut.
Oui. D'ailleurs, faudra qu'un jour.
Il y a une théorie du complot
les...
sur Twitter. Certains disent que c'est les journalistes.
T'as très bien fait ton boulot, bravo.
Voilà. Il aurait pas bien fait.
Parce que les supporters disent ouais, Florent Germain, il pose des questions qui dérangent. Pourquoi il pose ces questions alors que tout va bien?
C'est pas le moment. On est deuxième.
Oh mon Dieu, c'est pas possible. On peut faire des choses pareilles encore au 21e siècle.
Un jour, il faudra qu'on fasse un décryptage complet des conférences de presse et des questions qui parfois sont posées totalement hallucinantes. Bon bref, c'est pas le sujet du soir. Alors, on t'écoute Florent, tu vas tout nous expliquer, tout nous raconter et après on débat.
Allez, et on a préparé deux petits sons pour tout bien comprendre et ressentir l'agacement d'André Villas-Boas. En fait, c'était une conférence de presse assez classique au départ, hein, ça parlait Coupe de France, 10 minutes normales. Et ce que je disais cet après-midi, c'est que j'ai l'impression que c'est une règle un peu invariable à Marseille, c'est que c'est quand tout va bien que c'est presque pas normal et que tout peut basculer d'un coup. Et effectivement, la question qui fâche, le moment où ça a basculé, c'est quand est arrivé sur le tapis le sujet Paul Aldridge, qui est donc l'un des conseillers, le nouveau conseiller de Jacques-Henri Hérault, dont la mission principale, ne se cachons pas, ce sera de vendre des joueurs en Angleterre.
Oui, on dit conseiller, mais en fait, c'est un vendeur.
Oui, voilà, c'est bon, on lui attribue d'autres rôles, mais très franchement, c'est aussi et surtout pour son carnet d'adresses et ses relations avec les clubs anglais qu'il est à l'OM. Et donc, Villas-Boas n'a pas apprécié pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y voit une menace pour Zubizarreta, parce que c'est clair qu'il est dans le viseur de Frank McCourt, parce que Zubizarreta n'a pas assez vendu cet été. Il n'a pas aimé le fait d'avoir été prévenu assez plutôt tard, fin décembre en l'occurrence. Et puis c'est surtout pour lui la preuve ultime que l'OM peut encore vendre cet hiver, qu'en gros les finances définitivement prennent le dessus sur le sportif. Écoutez, André Villas-Boas, on voit bien deux stratégies différentes là, entre celle du coach et celle des dirigeants marseillais.
J'ai pas de garantie. Si le club cherche à vendre, c'est pas pour que j'ai dit de vendre. Pour moi, il m'intéresse de retenir le club. Jacques-Henri a passé l'autre jour dans mon bureau, m'a demandé un peu si on a des ventes, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ne fait pas. Après, c'est à lui d'exécuter ou non ce type de choses. S'il y a une chose qui aide normalement les clubs à vendre, c'est le rendement sportif de l'équipe. Rendement, non ? La performance sportive de l'équipe. L'intérêt, je pense, de la part du club est maintenir ça au top. Et à la fin de l'année, décider. L'aspect financier, économique, c'est à Jacques-Henri, Franck, de décider ce qui est important, c'est quitter les joueurs, vendre l'entraîneur, je ne sais pas.
Voilà, désabusé, hein. On l'a rarement vu comme ça, presque fataliste, Villas-Boas.
Ah oui, là, le Bradley Cooper de la canne-bière, il faisait la tronche. Hein.
Ouais, il faisait la tronche, il est aussi désabusé par rapport au fait qu'il ne voit pas de projet à l'OM, il n'y a aucune rénovation d'entamée avec des joueurs qui sont quasiment en fin de contrat, donc il y voit un manque d'ambition, d'où une question qui a été logique, et ce son va commencer justement par la question que je lui ai posée, sur son avenir, est-ce que ça le fait réfléchir, écouter cette séquence, et surtout le silence assez fort. Et cette situation, c'était une autre question. Est-ce que ça vous fait déjà réfléchir sur votre avenir? Parce que malgré tout, si vous qualifiez pour la Ligue des Champions, ce qui est votre objectif, l'OM ne peut pas aller à la Ligue des Champions avec ambition, avec un effectif restreint, et si les ventes sont une priorité. Alors est-ce que déjà ça vous fait réfléchir pour votre avenir, coach?
Je dois répondre avec franchise, mais je peux pas.
Pourquoi?
Oh, c'est terrible.
Et la autre question qui sont importantes maintenant que je dois faire attention.
C'est la réponse la plus terrible, celle-là, finalement.
Ouais, il finit en disant je suis venu pour la grandeur de l'OM et pour le lien que j'ai avec Zubizarreta. Et il finit en disant avec ces éléments-là, tu peux comprendre la direction où on va. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu la sensation qu'il annonçait presque qu'il allait finir la saison et ciao, bye bye.
Bah, moi, je me souviens de ce que je disais au mois d'août au sujet de l'OM. Je disais, j'exclus pas que dans le contexte revanchard et avec un coach aussi bon, l'OM fasse une bonne saison. Mais surtout, ne pensons pas à la suite. Évitons de penser à la suite et de ce qui pourrait se passer l'année prochaine s'il y avait la Ligue des Champions et tout ça. Parce qu'avec toutes les fins de contrat, l'étroitesse de l'effectif, il vaut mieux pas y penser, parce que sinon, on pourrait courir à la catastrophe à ne pas savoir où on va. Entre-temps, l'OM a fait le bon parcours, bon, qu'on pouvait envisager effectivement. Je crois qu'il y a deux jours, on parlait, mais Villas-Boas va pas s'en aller, si jamais, tout ça, je disais... On sait jamais, hein, si, je crois qu'on était à Reims quand je disais si un club anglais se présente et tout. Mais là, maintenant, voilà, c'est pour ça que ces derniers temps, j'arrêtais pas de dire surtout ne pensons pas à la suite, surtout profitez bien du moment là. Mais, et ne pensez pas à la Ligue des Champions où l'OM va aller, c'est sûr. Parce que si jamais il n'y a pas un plan, mais un vrai plan béton armé avec des présidents, des dirigeants hyper compétents pour ne pas se planter sur le recrutement, le renouvellement de certains joueurs, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont vraiment en fin de parcours là. Hein. Je sais pas comment tu peux envisager la suite à l'OM. Je sais pas combien de mal on peut mettre d'oseille.
Mais en fait, t'es obligé. Bah déjà, quand t'es supporter de Marseille, mais même il y a pas que les supporters. Il y a les joueurs aujourd'hui, le staff. Je pense que t'es forcément inquiet par ce projet, mais je pense que tu t'es pas inquiet d'aujourd'hui, quoi. T'es inquiet d'avant. Tu le sais déjà que financièrement, il a mis les 200 millions d'euros et que là, il veut plus réinjecter. On a l'impression par moment qu'il a envie de récupérer une partie en vendant des joueurs qui ont repris du crédit sur les derniers mois. Donc vendre un joueur là, ça serait pas dramatique pour Villas-Boas, parce que je pense que Marseille a un bon matelas d'avance sur les autres équipes. La dynamique de groupe aujourd'hui fait que si tu sors un ou deux mecs de l'équipe, de toute façon, l'équipe elle va fonctionner, parce que il y a une vraie osmose entre le staff et les joueurs, et ça c'est une vérité. T'as pas des résultats comme ça, des telles séries, même si par moment c'est dans la difficulté, à commencer par la victoire à Rennes là dernièrement. Mais au moins ils gagnent, donc ça montre un état d'esprit, et ça on l'a déjà dit ici. Après tu finis l'année, quand t'as un tel discours de la part de ton président, bah, Villas-Boas, c'est très clair, je vois pas comment il peut continuer. Sauf si Franck McCourt d'un seul coup change sa stratégie et dit bah écoutez, maintenant on est en Ligue des Champions, on va récupérer un peu d'argent, et ben je vais en réinjecter, on va garder des joueurs que l'entraîneur veut, on va garder cet entraîneur.
Là, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il soit pas sollicité, Villas-Boas.
Mais même sans être sollicité, Daniel, lui il s'en fout, il a déjà pris l'année sabbatique.
Oui, et puis donc, il a pris la posture Jérôme assez claire d'un homme libre. On n'a pas pu tout entendre, mais moi ça m'a fait penser un peu à la conf qu'avait fait Bielsa au tout début, à la fin du mercato. Quand il s'en était pris, il avait tiré à boulet rouge sur la brune en disant qu'en gros on lui avait menti, on lui avait caché la situation financière du club, on ne l'avait pas écouté sur les transferts. Et il avait eu cette phrase qui est un peu la même que Villas-Boas, que le président sache qu'il vendra ses joueurs beaucoup plus cher en fin de saison et que je vais mettre plus de valeur marchande. Et surtout,
c'est ce qu'a dit Villas-Boas avec d'autres
mots. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il y a une similitude. Et puis la similitude également dans le fait que, en gros, il a dit Villas-Boas, moi je suis tenu de rien, quoi. Je suis un homme libre, je suis parti de Chine, je gagnais 12 millions net d'impôts. Ouais. Par an, après, c'est pas ce contrat à l'OM qui va me retenir.
Après, il faut faire quand même attention à ce que la conf d'aujourd'hui n'ait pas un impact sur les résultats de demain.
Sur les joueurs ? Non, je vois pas pourquoi.
Je
au
dis,
contraire,
faut faire attention, je n'en suis pas sûr.
Daniel, moi j'ai vécu ce genre de situation où l'entraîneur peut se mettre aussi en difficulté avec son équipe dirigeante, et à l'arrivée, il est soutenu à l'intérieur.
Parce que
Flo va me confirmer, mais bon, moi j'ai des échos aussi du vestiaire.
Tout le monde l'aime.
Il l'adore. Ouais, les séances, c'est génial. Encore plus quand tu gagnes, et encore plus quand il prévoit des choses et ça se passe sur le terrain.
C'est pour ça qu'il y a un autre volet. Franchement, je pense qu'il y a aucun joueur qui veut quitter Marseille cet hiver. Donc après, tu pourras effectivement ramener une offre peut-être d'Angleterre pour Sanson et te dire tu peux pas la refuser, et puis un coup de pression pour dire non mais faut absolument que tu partes, etc. Fais-le pour l'OM. Moi, franchement, je vois pas un joueur. L'été dernier, oui, il y avait énormément de joueurs qui écoutaient les offres et qui disaient à leur agent écoute, ça va, il y a pas de projet à Marseille. Le président est venu nous voir en disant que il allait retenir personne, que tout le monde était à vendre. Ok, beaucoup écoutaient et voulaient même partir. Là, maintenant, la donne a changé en 6 mois, et c'est ce qu'a dit Villas-Boas. Il a dit il n'a pas la reconnaissance du fait d'avoir fait des clubs les plus instables au monde. C'est ce qu'il a dit, un club stable avec une passion en tribune. C'est pour ça que je pense qu'il est vexé. Il a l'impression qu'on continue de vouloir vendre alors qu'il y a eu un gros travail sportif qui a été fait ces derniers mois.
Mais la situation financière de l'OM est très mauvaise. Hein. Mais attention. Hein.
Mais c'est important ce que tu dis, Flo, là-dessus, parce que, alors après, c'est une autre génération, c'est il y a quelques années, mais j'ai vécu avec des groupes où on s'entendait parfaitement, et tu sais que la situation financière des clubs est compliquée, et par moments, surtout en cours de saison, ou même sur une préparation estivale, où tu te dis, bah écoutez, c'est pas grave, faites les cons, du moins financièrement vous êtes dans la merde, mais aujourd'hui nous on va tous rester. Et en effet, il peut y avoir un pacte entre le groupe de joueurs et le staff pour se dire, il y a des propositions peut-être pour Sanson, pour d'autres, à 30 millions, mais tout le monde va rester. Vous avez tous refusé et on verra au mois de juin, on ressortira tous gagnants parce qu'on va qualifier le club pour la Ligue des Champions et après ils se démerdent. Et je pense qu'ils peuvent... ils peuvent vraiment aller dans ce sens-là. Et là, ça mettrait encore plus de...
Alors, Florent, après, tu recules le problème de 6 mois.
Ah, pour conclure sur les infos du jour.
Tu es obligé de vendre, tu vas pas pouvoir recruter parce que les finances sont pas bonnes du tout. Et c'est pour ça, je disais, vraiment, pensons pas à l'année prochaine.
Pour conclure sur les infos, pour être complet sur les infos du jour, suite à tout ça, voilà que Jacques Henriero ce soir a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux.
Ouais. Donc ça, c'est dramatique, on va appeler évidemment ça les dérives de Twitter et des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'il a reçu des menaces de mort sur Twitter. J'ai même pu voir les messages. Bon, c'est totalement affligeant. Alors, il portera plainte demain. Il a été en ligne avec les enquêteurs en relation directe. La police prend cette affaire très au sérieux parce que sur l'un des messages était mentionné en plus l'adresse du domicile marseillais de Jacques Henriero.
Qu'il aille au bout, qu'il porte plainte,
la stupidité,
qu'il fasse condamner les mecs, tous les mecs qui insultent et qui vont trop loin sur Twitter. Il faut faire les procès. Les mecs se retrouvent dans la merde avec les flics qui débarquent chez eux, pour qu'ils se rendent compte que Twitter n'est pas le terrain où tu vas pouvoir cracher ta haine sur la gueule des gens.
Alors, revenons sur la situation
contre ces connards.
Est-ce que dit Villas-Boas, Marvin au 32-16 est avec nous. Salut Marvin.
Bonsoir à tous.
Salut Marvin. Salut. Bon, bah donc du coup, t'as vu, hein, t'as tout suivi évidemment. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah moi, pour le coup, je comprends pas trop les déclarations de André Villas-Boas. Je trouve qu'elles sont pas bonnes et sur le fond et sur la forme. Elles sont pas bonnes sur la.
Tu vois qu'il aurait mieux fait, même s'il pense qu'il a dit, de le garder pour lui et de rien dire maintenant.
Bah oui, parce que déjà c'est pas le moment. Tout va bien, donc je vois pas pourquoi il s'exprime maintenant au niveau des résultats.
Parce que lui, il a senti qu'il fallait le dire maintenant. Enfin, je.
Bah lui, et c'est là que j'arrive sur le fond, lui c'est juste une question de loyauté et d'amitié envers son directeur sportif qui est là pour le coup, il sent qu'il est menacé, Zubi.
Ah tu penses qu'il a fait ça juste pour sauver Zubizarreta?
Oui je pense, parce que
c'est fort possible ce que tu dis. Hein.
Très honnêtement, oui c'est possible, c'est même problème. Très honnêtement c'est la vie d'un club de foot d'acheter des joueurs et de vendre des joueurs, chose que Anthony Zubizarreta fait très très mal. Pour l'exemple de Sanson, Sanson c'est un joueur, très honnêtement, si on propose 30 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, moi je conseille à Zubizarreta, à Villas-Boas, à n'importe qui de le vendre vite parce que Sanson à l'OM, ça fait 3 ans qu'il est là, il a fait 6 mois de bon, donc ces 3 derniers mois, parce qu'au début de la saison il jouait pas, et les 3 premiers mois qu'il est arrivé de Montpellier. Moi, je trouve aussi que c'est plutôt dépassé de la part de Villas-Boas, parce que depuis quand on critique son supérieur hiérarchique, Jacques Henriero, jusqu'à preuve du contraire, qui lui, pour le coup, en tant que patron de l'OM, a le droit de s'entourer de qui il veut, et qui a surtout précisé, moi c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, que les prérogatives de Zubizarreta étaient toujours maintenues, c'est-à-dire que c'était toujours le directeur sportif qui allait gérer le recrutement et qu'il n'y aurait aucun départ qui aurait pu se faire sans son aval.
Donc toi, moi, ce que j'ai vu cet après-midi, c'est plutôt un soutien assez massif envers Villas-Boas. Toi,
mais la plupart des supporters, ils voient à court terme. C'est-à-dire, ils se disent, tiens, on a un très bon entraîneur comparé à Garcia de l'année dernière. Il a réussi à remotiver les mecs, etc., etc. Oui, mais sauf que pour voir un peu plus loin, de toute façon, l'OM doit rendre des comptes et en Ligue 1 à cause du fair play financier et à l'UEFA. Chose qui avait été mise en place, bon j'ai plus les chiffres en tête, mais ça avait été mis en place, je crois qu'on doit présenter des comptes de moins de 60 millions d'euros.
Ah bah tiens, ton point de vue est intéressant.
Un déficit qui ne dépasse pas les 30 millions d'euros.
Ce qu'on va faire demain soir, on a un after de 3 heures de 21 millions, on aura sans doute l'occasion de revenir bien sûr sur tout cela, plusieurs détails. Là c'était bon évidemment le factuel du jour, donc Florent je pense qu'on se retrouvera demain soir
avec plaisir,
l'after pour reparler de tout ça. Merci à toi.
Fais-toi filer les comptes par Micheline et puis ce sera plus clair.
Allez, ciao messieurs, à demain.
Bonne soirée. 2-3 infos pour conclure les gars, un point important concernant le mercato. Tu vois, est-ce qu'on a un jingle mercato d'ailleurs ? C'est toujours plaisir, un petit jingle mercato, ça détend.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est parti.
Il se passe rien alors.
Bah bon, là, pas.
C'est normal.
Il faut prévoir le jingle mercato, les gars, c'est le mercato. Quoi ? Il se passe rien ?
Bah vas-y.
Toi ? Kurzawa qui discute avec Arsenal ? Il se passe rien ?
Ah, ils discutent.
Donc Arsenal le veut, mais pour le mois de juin, hein, parce qu'ils veulent le prendre libre. Donc les deux parties, on parle d'un contrat de 5 ans. Oui, on parle d'un contrat de 5 ans pour Kurzawa et Arsenal. Et il est refait, Kurzawa, là. Un contrat de 5 ans.
S'il pouvait prendre l'Eurostar, là, dès maintenant.
Giroud, lui, sera à Milan ce week-end, en gros, pour partir à l'Inter. Donc, finalisation de l'opération dans les heures qui viennent. Là, 2 ans et demi de contrat pour Giroud.
Bah, écoute, c'est bien. Non,
mais tu vois, quand on, enfin, c'est quand même, quand on nous dit, il y va pour l'équipe de France, pour ceci, pour cela, on nous prend pour des cons.
Non, exactement.
Il y a 2 ans et demi de contrat. Là, maintenant, au bout de 2 semaines de discussion et de débat autour de Giroud, il va aller là. Non, mais il y va pour rejouer pour l'équipe de France. Mais combien de fois j'ai expliqué, mais arrêtez de croire à ces bananes.
Eh oui.
Maintenant, ça tombe. Il y a 2 ans et demi de contrat à son âge. C'est bonheur.
Bah, il est refait aussi.
Il est refait. Sans cag. Il va aller sur le banc, il va passer d'un banc à l'autre parce que entre.
J'espère que c'est des bancs Recaro.
Il prendra pas la place de.
Confortable.
Ah! Lukaku,
putain, t'as du mal. Hein.
Ben non, mais
t'es cramé ou quoi?
Parce que la doublette là devant à l'Inter, elle est béton et il aura des miettes.
Une info importante par ailleurs,
avec un peu de miettes,
il est numéro 3, on en parlait. Il va jouer un petit peu plus en Europa League, comme il a fait l'année dernière avec Chelsea. Et cette année, il ne jouait plus du tout.
Là, il a une miette avec un peu de mie collée dessus. Là-bas, il avait vraiment que la croix.
Une info importante pour conclure, les gars.
Ça suffira pour être appelé en équipe de France.
Une info qui fait beaucoup parler en Afrique et d'ores et déjà dans certains clubs. Pourquoi ? La prochaine CAN au Cameroun repassera en hiver, donc 2021. Ah oui. Or, cette CAN, maintenant, elle est passée à 24 clubs, donc 24 équipes. Donc, ça veut dire une semaine de compète en plus. Donc, ça veut dire que là, entre le 9 janvier.
Ça va gueuler dans les clubs.
Ah, mais non, mais là, c'est
va mettre la pression sur les joueurs, c'est terrible.
Entre le 9 janvier et le 6 février de l'année prochaine, 4. Donc, ça veut dire, les mecs, ils vont disparaître à la Trévenol pour revenir mi-février, voire plus tard.
2021.
Ben là, c'est dans un an, là.
Mais pourquoi c'est si tôt ?
Parce que c'est la prochaine CAN.
Tous les 2 ans.
Ah oui,
voilà. Donc, en gros, la CAN, on avait dit, bon, on la remet en juin pour arranger tout le monde, les clubs, les gars dans leur transfert et tout.
Pourquoi ils ont
pour des raisons de climat, apparemment, parce que c'est très humide le Cameroun au mois de juin, donc il y a beaucoup de pluie et tout ça. Ah. Bref, donc en gros, qui va recruter des joueurs africains à l'intersaison ? Tu sais que les mecs, ils disparaissent quasiment 2 mois au milieu de l'année.
S'ils sont vraiment très forts, tu les recrutes et tu sais que tu comptes pas sur eux à ce moment-là.
Ça a toujours existé de tout.
Non, mais sauf que là, on avait résolu le problème et pas pour le remet. C'est quand même fantastique.
Oui, après,
c'est fini. Demain soir, 21h, donc avec un nouveau LOM, l'actu du jour. Qu'est-ce qu'on a demain soir également au programme ? Tiens, on va vous parler du modèle économique de Manchester dans le détail. Une analyse très intéressante. Vous allez voir que Manchester aujourd'hui, l'important, c'est le bilan financier. Hein. C'est pas de gagner des titres, ce qui explique peut-être pourquoi Solskjaer est toujours là. Et puis, on aura avec nous un statisticien qui a élaboré un système très marrant de buteur efficace. C'est-à-dire le buteur qui met le but du 1-0. C'est peut-être plus important que le buteur qui met le quatrième but du 4-0.
Ouais,
et bien, ce sera demain soir.
Donc Manchester United fait comme l'Olympique Lyonnais en France.
Voilà. Maintenant. Et puis, voilà, par exemple, le but de Pipo Oudou ce soir, très important. Bonne nuit à tous et à demain soir, 21h dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.